Bon, ben, on va commencer, hein.
Tout d'abord, on vous dit bonsoir, et puis je vous dis en langue arabe, salam alaikum.
Ce qu'on voulait dire, c'est qu'on vous remercie d'être là. C'est un livre qui est un peu polémique, je crois que vous l'avez compris, qu'il n'est pas toujours bien reçu, parce que le fils d'un Algérien et la fille d'un Français, fils d'eux qui se sont combattus, moi, on m'a reproché que je fricotais avec les félouzes. Lui, on l'a un petit peu aussi bousculé de son côté. Donc, quelque part, on s'est posé la question si ce livre n'arrivait pas un peu tôt, si la France et l'Algérie étaient prêtes à se parler vraiment. Personnellement, moi, j'ai envoyé des livres au consul d'Algérie à Bordeaux et à Toulouse. J'ai jamais eu de réponse. Hein ? Même pas une réponse de courtoisie, rien. Et du côté français, ça a été quand même plus positif dans la mesure où on a été invité au Sénat et que le président du Sénat, M. Jean-Pierre Bel, a lu ce livre et nous a appelé pour nous dire qu'il l'avait trouvé formidable et il nous a invités au Sénat pour en parler. Et on a trouvé ça très, très, très intéressant. Alors bon, d'un autre côté, on a envie de se dire qu'il n'y a jamais le temps d'écrire un livre. Il est trop tôt, trop tard, on ne sait pas trop. Mais nous, on n'est pas immortels, tous les deux. Et on avait envie de laisser une trace sur ce qu'on avait vécu, notre petite enfance. En tout cas, moi, je ne suis pas restée longtemps en Algérie, mais j'ai quelques souvenirs quand même de là-bas. Et surtout Mohamed, qui a été un enfant soldat, entre guillemets. Mais on voulait laisser une trace en se disant, on s'est rencontrés, c'est pas un hasard. On s'est rencontrés, on s'est parlé et on a coécrit ce livre parce qu'on souhaite que nos deux pays, moi j'aime beaucoup l'Algérie et Mohamed aime beaucoup la France puisqu'il y vit, que nos deux pays se rapprochent peut-être et qu'on laisse un petit caillou blanc sur, peut-être, qui va peut-être faire d'autres petits cailloux et un petit chemin sur le fait qu'on fasse une résilience, hein, une résilience sur le gâchis de cette guerre qui a fait du mal à tout le monde, qui, nous, on est deux dommages collatéraux, en quelque sorte, puisqu'on a grandi sans nos pères, qui se seraient probablement appréciés s'ils s'étaient rencontrés non-adversaires, puisqu'ils se ressemblaient, ils sortaient tous les deux d'une famille de paysans pauvres, et chacun, mon père, lui, a grandi dans l'école de la République. On lui expliquait sur les cartes les taches roses de l'Empire français, et il se sentait fier de ce pays, donc il a grandi, ensuite il a été résistant, et tout naturellement, il est allé défendre l'Empire français en se disant que c'était sa mission de soldat de la République, et que c'était une mission. Il était fier d'être un soldat de l'armée française, mon père, et si fier qu'il en est mort, hein, qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission et de son courage et de son patriotisme. Le drapeau bleu, blanc, rouge, ça voulait dire quelque chose. Mais quelque part, je ne sais pas s'il s'est posé des questions sur ses missions. J'avais 6 ans, évidemment, et ma mère, elle, ne lui en a jamais, je pense, lui a jamais posé la question. Enfin, j'en suis sûre même, sur ses doutes, etc. Parce que c'était tellement évident. Nous, on parle de cette guerre 50 ans plus tard et on donne des leçons de morale. Mais à l'époque, c'était logique de défendre l'Algérie française. C'était tout à fait logique. Et mon père était un soldat patriote, courageux, fier de son pays et qui pensait faire bien de défendre la liberté de la France et qui pensait que l'Algérie, effectivement, c'était la France. Donc voilà, moi j'ai parlé du côté de mon papa et je disais simplement que le père de Mohamed aussi était un enfant pauvre et que ces deux jeunes hommes qui se seraient rencontrés ailleurs qu'adversaires ou dans un camp d'un côté ou de l'autre auraient très probablement pu s'estimer, s'apprécier, se respecter. Voilà.
Je crois que j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Hélène. Je crois que c'est pas la peine de faire des grands discours, d'expliquer. Le livre, vous l'avez certains d'entre vous en lu. Bon, nous, on a essayé de faire quelque chose pour avancer. Je veux dire, j'ai toujours ce dicton qui est chez Brandy, allez, grandis. Allez, grandis. Je veux qu'on grandisse. Je veux aussi que la France grandisse. Et dire, bon, il y a un moment ou un autre, dire, bon, il s'est passé quelque chose dans ce pays, il faudra qu'on se mette autour d'une table et puis se dire « Bon, ben, les maladies, ça se guérit. Hein. » Voilà.
Alors, ce livre, en fait, moi, je vais brièvement vous expliquer ce qu'est ce livre. Enfin, Mohamed et moi, on a été, extrêmement blessés par la mort. Ce sont des morts violentes. Encore, Mohamed, lui, ne sait pas où est mort son père, donc il n'a pas un lieu pour se recueillir devant une tombe. Moi, je sais où est mort mon père, mais comment dire, c'est pas là que j'ai envie de le rencontrer. J'ai grandi sans lui, Mohamed a grandi sans son père, ça on vous l'a déjà dit. Et ça a tout le temps été un deuil qu'on n'a pas pu effacer, parce que plus... Si vous voulez, quelqu'un, je veux dire, mourir pendant cette guerre, ça veut dire que tous les ans, on parle de cette guerre, qu'il y a toujours des conflits, qu'il y a toujours de la presse qui en parle, et à chaque fois, ça réouvre nos cœurs, ça réouvre nos blessures. La guerre d'Algérie, depuis qu'elle a commencé cette guerre, on n'arrête pas d'en parler. Alors, il y a d'un côté le discours des pieds noirs, le discours des harkis, le discours des anciens d'Algérie, le discours des appelés, le discours des rappelés, le discours des... Enfin, ça n'arrête pas. Et pour nous, ça veut dire qu'on est tout le temps trempé dans ce bain, et que quelque part, on n'arrive pas à cicatriser. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que mon père, je l'ai vraiment traqué. Ça ne vient pas comme ça tout de suite. Il y a d'abord le mouchoir qu'on met dessus, et puis on grandit, et puis on a des enfants, et puis les enfants grandissent, et après, on se retrouve sans enfants, et on a toujours ce boulet. Et là, on a du temps, et on se dit, tiens... j'ai envie de ressortir mon mouchoir et de voir ce qu'il y a dessous. Et là, on fait des recherches. Moi, j'ai fait des recherches sur mon père. J'ai refait son parcours. Je suis allée au Vietnam, puisqu'il avait fait l'Indo, mon père. Je suis allée au Vietnam. Et puis, j'ai refait tout le circuit qu'il avait fait. Je suis allée au Sénégal, où je suis née. Je suis allée ensuite au Maroc. Et puis, je suis allée en Algérie, deux fois, pour refaire son parcours et essayer de rencontrer aussi ses anciens adversaires. J'ai été accueillie par le général Giap, qui était donc le ministre de la Défense de Ho Chi Minh et qui est également le grand vainqueur de la bataille d'Yaben Phu. J'ai rencontré des personnalités, mais aussi des tout petits soldats qui ressemblaient à mon père. Et je voulais aussi le rencontrer à travers ses anciens adversaires pour faire un peu une photo en noir et blanc, en négatif. J'avais le positif, je voulais voir aussi le négatif, parce que je ne voulais pas simplement que entendre parler de lui à travers ses frères d'armes. Je voulais aussi entendre parler de lui à travers ses frères de sang, ceux qu'il avait combattus. Et là, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point ces soldats des armées coloniales, quel que soit le camp où ils se sont battus, se ressemblaient. On a fait battre des petits pauvres contre des petits pauvres. Et c'est là que ma révolte a commencé à grandir. C'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, sur l'autel du prestige colonial, de l'empire colonial français, on a sacrifié des centaines de milliers de vies, de familles, pour en arriver à ce qu'on sait. Et c'est un véritable gâchis pour moi. Et ça, je voulais en faire une preuve universitaire, puisque j'ai soutenu une thèse en sciences politiques sur la politique coloniale de la 4e République, où j'ai prouvé, où j'ai démontré, devant notamment un général de corps d'armée et devant des universitaires, à quel point il y avait une légèreté des politiques français de l'époque qui ne savaient pas trop ce qui allait se passer, mais qui envoyait des troupes, et on envoie des troupes, ça se passe pas mal. Il n'y a pas de politique diplomatique, il n'y a pas de politique de respect de l'autre, de respect de l'ennemi, de respect de l'adversaire, de respect de celui qui veut son indépendance. Voilà, c'est ça que j'ai voulu prouver. Donc, je te laisse un peu la...
Je voulais sur ce livre aussi expliquer ce que c'était que ce qu'on appelait les maquisards, les mujahidites. Ce sont des gens tout simples, hein, je veux dire, qui venaient de tous les bords sociaux. 80% étaient d'origine paysanne, je ne pense pas des intellectuels ou des ouvriers, ce sont des gens qui venaient, la grande majorité, de la campagne. Ils étaient, pour la plupart, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, et qui, quand ils ont pris le maquis, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas pris les armes pour aller se battre contre la France, mais contre une idée, contre un colonialisme qui existait et qui ne voulait pas leur reconnaître les droits. Quand on regarde l'histoire de l'Algérie depuis... l'entrée de la France en 1832 jusqu'en 1954, date du déclenchement de cette maudite guerre que j'appelle, ben, toutes les lois n'ont jamais été appliquées. C'est-à-dire que la communauté que j'appelle indigène, dans le livre, je parle beaucoup de ce phénomène, de ce qu'on dit indigène, on n'était pas français. C'est qu'on n'a jamais... Il y avait deux collèges. Il y avait un collège pour les Européens et un autre collège pour les autochtones, je veux dire, pour les indigènes. Et les lois, elles étaient faites pour les colons et non pas pour les indigènes. Lorsqu'on sait qu'en 1962, combien on avait de bacheliers en Algérie. Je vous dis 350 bacheliers. Aujourd'hui, en Algérie, il y a 2 500 000 bacheliers. Je ne vais pas parler de la politique aujourd'hui, de l'Algérie, sans leur en parle, mais pour donner simplement une explication de ces hommes et de ces femmes qui étaient engagés pour la lutte armée, pour retrouver leur dignité, sont des gens qui sont allés combattre une idée qui était le colonialisme. Pas du tout de haine dans leur cœur ou dans leur pensée de dire « nous, on va flinguer les Français » ou « on va faire ceci » ou « on va faire ceci ». Pas du tout. J'ai vécu avec mon père qui était analphabète mais qui savait compter. Il ne m'a jamais appris à dire... Alors, ses amis étaient beaucoup plus des Européens. Bon, on sait que l'Algérie, ce n'est pas que des Français. Il y avait des Maltais, des Espagnols, des Italiens, des Siciliens. Mais on baignait dans cette ambiance. Je veux dire, on partageait la mouna, on partageait la galette, la paella. Il n'y avait pas ce genre de... Simplement, le système colonial qui était à l'époque voulait qu'une partie... elle avait tout et l'autre partie, elle devait vivre misérablement. Lorsque l'on sait, vous verrez, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, l'expropriation des terres, lorsqu'on n'était pas ce qu'on appelait le droit chemin, on allait en prison pendant 3 jours ou 4 jours. J'ai vu mon père, moi qui étais tout petit, j'avais 5 ans, 6 ans, à chaque fois qu'il venait, se faire menotter pour aller en prison, passer 2 ou 3 jours. Et ça vous marque, et ça vous marque pour la vie.
J'ai écrit un premier livre qui a été publié chez Bayard, qui s'appelle « Soldats perdus ». En fait, c'est le livre de ma thèse, où j'explique un petit peu le parcours de mon père. Enfin, en fait, je mettais dans ce livre face à face le très haut, c'est-à-dire le monde politique, et les incidences sur le très bas, c'est-à-dire des gens, des petits sans grade comme mon père. J'ai fait un face à face là-dessus. Donc. Et après, je me suis dit, en fait, ce livre, il est complètement inachevé, parce que... Moi, je m'approprie, tout en ayant des témoignages des uns des autres, mais la pensée des autres. Et j'aurais aimé coécrire ce livre, en fait, avec une femme. Une femme qui aurait été, comme moi, fille d'un soldat de la LN et qui aurait vécu la même chose que moi. Alors, je l'ai trouvée, cette femme. J'ai une amie algérienne qui habite à Coléa, qui s'appelle Meriem Aouker, et dont le père a été tué par l'OAS en 61, mais elle n'a pas souhaité l'écrire parce qu'elle habite en Algérie et parce qu'elle se sent un peu brimée. Elle n'a pas la liberté d'écrire ce qu'elle voulait, donc elle m'a dit non. Et donc, après, j'ai cherché les associations franco-algériennes, etc. Ça a duré des mois et des mois pour trouver quelqu'un qui accepte d'écrire ce livre avec moi. Et puis, un jour, j'ai téléphoné au consulat. Je voulais avoir le service de la culturelle. Et pour me dire, c'était vraiment le dernier appel. Et après, j'allais vraiment laisser tomber parce que je me disais, je ne vais pas non plus passer mon temps à essayer de trouver quelqu'un qui veut faire un livre avec moi. Parce que ça a duré des mois. Et puis, au standard, il me dit, écoutez, nous, on a un fils de martyr qui est à côté de nous. Il y avait Mohamed. J'ai eu Mohamed au téléphone. On a pris rendez-vous. C'est écrit dans le livre. On s'est trouvé à la gare Saint-Jean de Bordeaux. Et puis, on a déjeuné tous les deux. Et puis, j'ai enregistré Mohamed. Et puis, après, on a écrit. Et puis, voilà. Et après, ça a été une grande aventure parce qu'il fallait trouver un éditeur. Nous avons eu Priva qui a dit, OK, banco, on y va. Et puis après la presse, on s'est battu aussi parce qu'on a quand même des bons articles dans La Croix, Le Canard Enchaîné. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a été cité dans Le Monde.
Le Point.
Le Point.
L'Humanité.
Libération. Enfin, on a été invité une heure à la Fabrique de l'Histoire de Manuel Laurentin sur France Culture. On a eu 10 minutes dans le journal de France Info. On a eu des très bons retours presse. Oui, on a eu France O. Deux fois, et enfin, et puis c'est pas fini, ça continue parce qu'on a quand même des bons contacts. Enfin, au niveau média, ce livre a été bien reçu. Mais voilà, vous m'avez posé la question, voilà comment j'ai connu Mohamed, mais ça a été vraiment un parcours du combattant pour moi, parce que je pense qu'en Algérie, c'est encore très frileux, et que quelque part, parler et faire un livre comme ça avec une Française, c'est un peu gonflé, quoi.
On l'a fait.
On l'a fait. Voilà, c'est un livre court qui se lit comme un roman, parce qu'on parle de notre enfance, ça avance doucement, jusqu'à la mort ou la disparition de nos pères. Et après, on en parle un petit peu de notre vie après, parce que nos mères ont dû... Bon, moi, ma mère, en 48 heures, on est passé en 48 heures d'Algérie à la France. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un poil ou rien. Enfin, j'ai vécu au Sénégal et tout. J'étais complètement dépaysée. Apeurée de tout, je veux dire, pour moi, l'Algérie, enfin l'Afrique du Nord, l'Afrique, c'était mon pays, pas la France. Et bon, il a fallu que je me réadapte, que mon père, sans mon père, avec ma mère qui n'a jamais fait le deuil de mon père, j'avais un peu honte d'elle parce que jusqu'à l'âge de 16 ans, elle venait me chercher, enfin, où elle m'accompagnait ou à l'école et toujours en noir. J'avais le petit truc des orphelines noires sur le truc. Enfin, c'était les anciens combattants, veuves de guerre, médaillés militaires. J'ai tout fait. Et c'est vrai que quelque part, j'ai eu une enfance très triste. Mais vraiment triste dans le souvenir de ce père, et ma mère a jamais voulu refaire sa vie, et tout en n'en parlant pas, parce que c'était quelque chose de trop dur, elle n'a jamais pu trop parler de mon père, parce que la mort de mon père, ça a été un peu la mort de ma mère. Elle s'est éteinte, elle s'est refermée, elle n'a plus jamais eu, bon, elle a eu des amis, elle a travaillé, etc., mais plus de vie de femme, plus de vie, voilà, c'était vraiment... sa mort de femme, quelque part. Donc, elle a été mère, mais une mère triste. Ça, je veux dire, vraiment, j'ai pas eu une enfance joyeuse, gâtée. On rigolait pas chez moi, quoi. Fille unique aussi.
C'était pareil de mon côté. Moi, je suis devenu homme avant l'heure. Hein. C'était, bon, chez nous, c'est comme ça. C'est l'homme hein, qui... Moi, j'ai dû partir travailler, quitter les études. Bon, je les ai refaits après, quand je suis venu en France. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour ce pays. J'en parle avec des tripes, pas avec la pensée, j'en parle avec des tripes. Mais j'ai travaillé en étant très jeune pour un salaire de misère et puis les coups de pied dans le derrière. Voilà, alors ça vous dire, j'ai perdu ma mère l'année dernière, au mois d'octobre. Et on n'a jamais discuté avec ma mère de mon père. Ça, c'était quelque chose de... C'était moi et j'en parlais pas. Je voulais pas parler avec ma mère de mon père. C'était ma mère et lui, c'était mon père. Les mamans, chez nous, ça se respecte, ça se vénère, etc. Il y a des choses qu'on peut pas, qu'un petit garçon comme moi ne pouvait pas lui dire. Même aujourd'hui, j'ai dépassé la soixantaine, j'avais pas encore j'arrivais pas à trouver, je veux dire, l'astuce qu'il fallait que je parle avec elle de mon père. C'était toujours quelque chose qui m'appartenait, c'était mon tiroir secret. Moi, j'ai vécu avec mon père dans les maquis. Ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est une image qui me reste, qui est très forte. Je veux dire, voir ce père qui avait peur pour son fils, ce père qui disait, bon, moi, si je meurs, je ne veux pas que mon fils meure. Ce sont des choses qui me sont restées jusqu'à aujourd'hui et je ne voulais jamais en parler avec ma mère.
Donc, vous voyez, il a fallu qu'on se construise tout seul et qu'on construise aussi notre père, nos pères tout seul. Parce qu'autour de nous, il y avait du silence, du deuil et beaucoup de silence. Enfin, moi, je vois ma mère. Bon, quand elle a. Mon premier livre, déjà, ça a été un choc pour elle. Parce que je racontais la vie de mon père, tout ce que j'avais. Elle ne connaissait pas grand-chose de mon père. Elle l'aimait tout juste. Elle l'aimait immensément, mais elle le connaissait peu. Et par exemple, mon père, en 45, donc il était très jeune, puisqu'il est né, il avait 20 ans, il a quasiment perdu la vue à un œil, puisqu'il a eu une cataracte post-traumatique due à un éclat de grenade. Et après, j'ai rencontré des gens qui l'ont connu, qui disaient effectivement, il avait un dixième à un œil. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas... À cette époque-là, ils avaient tellement besoin d'hommes et de soldats qui, maintenant, un soldat en guerre, en plus, en guerre, hein, pas un soldat qui est dans les bureaux, en guerre, qui a un dixième à un œil, il est... Voilà. À cette époque-là, non. Mais mon père n'a jamais dit à ma mère qu'il était borgne, en fait. Et c'est en demandant son dossier médical, puisqu'on a accès aux dossiers médicaux de ses parents dans l'armée, c'est à Limoges, hein, il y a un service pour ça, que j'ai pu voir qu'il est allé à l'hôpital plusieurs fois, que j'ai pu voir les comptes rendus des ophtalmos, etc. Mon père était borgne. Donc quand j'ai dit ça à ma mère, elle ne m'a pas cru, mais je lui ai montré, je lui ai dit, mais si, regarde papa, il voyait que d'un œil. Et après, j'ai vu rencontrer des amis à qui il en a parlé, mais il n'en a pas parlé à ma mère. Des choses comme ça, où bon, il parlait jamais, parce que les vrais soldats sont très pudiques sur leur combat, tout ça, donc ils n'en parlaient jamais. Ma mère ne savait pas ce qu'il faisait, ne savait pas où il allait, ne savait rien. Elle se contentait, et c'était immense, de l'aimer. Voilà. Et elle pensait que si elle l'aimait, si elle lui préparait tout autour de ça, un bon petit repas, de l'amour, des lettres, puisqu'ils étaient souvent séparés, c'était tout le maximum qu'elle pouvait donner. Mais véritablement, se pencher sur lui, sur sa vie, sur son quotidien, c'était tabou. Et puis une femme, à cette époque-là, c'est pas les femmes de maintenant, elles sont moins curieuses, elles posent moins de questions. C'était une femme, voilà, comme ça. Il était militaire d'active, il s'est engagé, donc il a fait la résistance à 17 ans. dans le Néraquet. Il était dans la section Raymond IV. Ensuite, il s'est engagé pour la guerre contre l'Allemagne. Jusqu'à la fin, il est monté jusqu'en Allemagne, Alsace, Lorraine, Allemagne, etc. Et après, de là, on a soulevé ces... On leur a dit, ceux qui veulent... voilà, en fait, on leur a menti. Hein. On leur a dit, l'Indochine est envahie par les Japonais. Non. Mais quand mon père est arrivé, lui, il est arrivé dans le sud, donc il est arrivé en Cochinchine. Quand il est arrivé, les Japonais, mon père n'en a pas vu. Hein. Il n'en a pas vu un. Ça, je peux vous le dire, sur ses journaux de marche et d'opération, toutes les batailles que mon père a menées, je les ai tous lues au fort de Vincennes, c'était contre des Vietnamiens, contre des Indochinois. Il ne s'est pas battu. Alors, certes, il y avait des Japonais, mais les Japonais, bon, c'est vrai qu'ils ont été assez... Et puis, il y avait les Anglais aussi qui ont pris la relève et qui ont redonné après au Vietnam. Donc, voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça.
Il était dans la Wilaya 4, la zone 4. Hein, on a pris le maquis, moi et mon père, dans la région qui était la sienne. C'est-à-dire, il est né dans cette région. Et la région où il a pris le maquis, c'était la région de sa mère, pas de mon grand-père, de ma grand-mère. Et parce que sa grande sœur était là, il avait une admiration pour sa grande sœur. Il avait ses oncles, les demi-frères de sa mère. Et on appelle ça Sharara, c'est-à-dire l'étincelle. C'est-à-dire que on passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, pour pouvoir arriver jusqu'au sommet de la montagne, ce qui n'est pas facile. Même si la montagne, elle est facile à grimper. Je veux dire, mais ce sont les contacts. La difficulté du moment était, il y a le secret, il ne faut pas se faire arrêter, il ne faut pas se faire avoir, c'est la torture, c'est un certain nombre de choses qui n'ont. Et c'est toute cette difficulté pour essayer d'arriver jusqu'au sommet et pour pouvoir dire « je suis un maquisard ». J'étais très jeune, j'étais très très jeune. Mon père était que j'étais le seul garçon. On est deux dans une famille arabe, c'est pas beaucoup. Il y a un garçon et une fille. Ma mère ne pouvait plus avoir d'enfant. Lui, dans son esprit, c'était « je ne veux pas que mon fils tombe dans les mains de l'armée française ». Il est nationaliste, il est connu. Il sait qu'un jour ou l'autre, il va être arrêté. Ça, il le savait. Oui, j'étais un petit garçon, mais le petit garçon, il fallait qu'il devienne homme chez nous. C'était ça. J'avais 13-14 ans. Ouais. Mais c'était comme ça, je veux dire. Mais j'étais pas le seul. Moi, lorsque j'étais, on pensait des choses qu'on en avait parlé avec Hélène, c'est que là où j'étais, dans le marquez où j'étais, j'étais pas le seul. Il y avait une fille, une adorable fille d'une beauté extraordinaire qui s'appelait Nora, et elle avait 13 ans.
Est-ce que c'est trop dur pour vous de nous dire dans quelles circonstances il a disparu ?
Il y a tellement de choses qu'on dit. Je veux dire, c'est le...
Vous avez
Moi, je suis pas resté dans les maquis. Moi, on voulait plus de moi dans les maquis. Il a fallu que je trouve des divers cheminements, etc. Ma chance a été que je tombe sur des bérets bleus à l'époque. Et puis, heureusement que je parlais le berbère, que j'ai pas parlé français, parce que si j'avais parlé un mot de français, je passais chez les DOP. Mais je suis d'origine berbère, je parlais le berbère.
Explique ce que c'est les DOP.
C'est ce qu'on a là où, je veux dire, on amène les gens pour les torturer, une division d'opérations, je ne sais plus de. Les DOP, c'est les gens, on amenait tous les suspects qui étaient là, ils venaient là-bas, on les torturait, etc. Bon, certains, on les retrouvait, certains, on ne les retrouvait pas. Mais je ne suis pas là pour juger de ce qui s'est passé. Simplement, moi, ma chance a été lorsque j'ai été attrapé par les bérets bleus. Les bérets bleus, le douar a été complètement brûlé. Il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de gourbis, il n'y avait plus. Bon, tout le monde est parti d'un côté, tous les petits qui étaient là. Certains sont partis avec les moutons, les chèvres, d'autres avec les vaches. Mais moi, ma chance, c'était de repartir, de revenir chez moi. Voilà, c'est là que j'ai quitté mon père. Bon, j'avais des échos, je veux dire, il y avait des lettres, ça restait toujours. Il y avait toujours ce qu'on appelle les agents de liaison qui ramenaient des lettres. Moi, je travaillais toujours pour le FLN. J'amenais les lettres, j'amenais l'argent, je faisais des tas de choses. Mais la mort de mon père n'est incompréhensible. Personne ne sait comment, parce qu'il s'est passé qu'il était tout seul. Voilà. Il est sorti un matin tout seul, 10 minutes après, il dit, tiens, il s'appelait Djelloul, il était commissaire politique de la LN, parce que c'est quelqu'un qui avait une grande force. Un commissaire politique, c'est beaucoup plus qu'un officier de l'armée. à l'époque. Mais bon, il a disparu. Est-ce que ce sont ses collègues qui l'ont tué? Est-ce que c'est l'armée française qui l'a tué? Est-ce que, bon, il est tombé dans une embuscade? On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. J'ai fait, jusqu'à maintenant, je fais toujours des recherches pour savoir comment. Mais chacun a son mot, sa parole à dire, son geste à dire.
On peut savoir quelles étaient les unités en place?
Oui, mais il faudra travailler dans... Vous savez que j'ai essayé de voir avec les archives algériennes, parce qu'avant de connaître Hélène, je voulais écrire un livre sur mon père, et il aurait le titre « Mon père s'est oublié ». Bon, mais il n'y a pas, je veux dire, bon, ça se passe beaucoup avec la mémoire. Ça se passe beaucoup avec la mémoire. Tous les maquisards que j'ai eu la chance de rencontrer parce que j'étais avec eux au maquis, j'ai dans ma famille des officiers de la LN avec qui j'ai parlé, on en a parlé des nuits et des nuits entières, mais il n'y a pas d'écriture, je veux dire.
Mais aucun n'a pu apporter un témoignage.
Tout le monde apporte son témoignage, si vous voulez. Tout le monde dit ça s'est passé là, ça s'est passé là, ça s'est passé là, mais la vérité où elle est, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui me suivra jusqu'à ce que je ferme les yeux pour de bon. Bon, pour moi, bon, aujourd'hui, bon, j'ai dépassé un petit peu tout ça, mais pour mes enfants, c'est très important. J'ai deux petits garçons et ils posent trop de questions. Alors, quand ils vont en Algérie, il y a une rue qui porte le nom de leur grand-père. Alors, né-le, mort-le, où ? Et est-ce qu'on peut aller se recueillir devant Satan? Oui, je leur dis, ben, j'aurais aimé le faire moi, mais bon, je ne l'ai pas. Ben, il est là où il est là qu'il repose en paix. Je veux dire, bon, c'est pas. Nous, avec Hélène, on a essayé de dépasser tout ceci, de dépasser de ceci, d'écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle page d'histoire. Parce que l'histoire, ce sont des hommes et des femmes qui l'écrivent. Alors, nous, on voulait écrire quelque chose, écrire une histoire de deux gamins perdus dans cette guerre, mais qui veulent qu'il y ait quelque chose qui avance. Je veux dire, moi, la France, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. C'est pas parce que vous êtes là que je le dis. Moi, j'ai été à l'école en français. J'étais à l'école laïque, puis j'étais à l'école religieuse parce qu'il fallait que j'apprenne l'arabe et que j'apprenne le Coran. Mais j'ai appris l'histoire de France, la Commune. La Déclaration universelle des droits de l'homme, Robespierre, Danton, Victor Hugo, Descartes, il y a plein de choses. Bon, j'aimais pas, c'est vrai qu'on me disait chanter nos ancêtres, les Gaulois, ça me faisait rigoler à l'époque, parce qu'on est tous des bronzés, les Gaulois, ils étaient blonds. Voilà, mais bon, autrement, il y a un lien formidable entre les deux rives de la Méditerranée qui existent. Vous repartez en Algérie aujourd'hui, 90% de nos jeunes parlent la langue française. Ils ont les yeux rivés sur la France. Et c'est ça qu'il faudra que la France en profite. Je ne crois pas. Il n'y a pas de ressentiment. Il n'y a pas. Quand on l'a écrit, d'une façon... on arrive, j'ai beaucoup pleuré. Hélène a été aussi sensible. Il y a plein de choses qui s'est fait. Il n'y a pas un ressentiment de dire bon, on nous a fait ça, on nous a fait ça, il faudrait ça. Nous, avec Hélène, on a dit bon, on va écrire ce livre pour essayer de dépasser tout ceci, pour dire pourquoi pas écrire une nouvelle page d'histoire des relations entre la France et l'Algérie. La France a été capable de faire quelque chose avec l'Allemagne. Les Allemands étaient capables de faire quelque chose par rapport à la France. Les États-Unis et l'Amérique, et le Vietnam, etc. Pourquoi pas la France? La France, il n'y a pas que l'Algérie. Il y a Madagascar. Il y a d'autres pays qui ont été colonisés où les blessures ne sont pas refermées totalement. Et il faudra qu'à un moment ou un autre, on se dise, bon, moi je dis toujours, le temps des larmes, il est révolu. Mais celui des blessures n'est pas résolu. Ben, pourquoi pas se mettre autour d'une table et puis de dire, bon, ben, c'est vrai, il y a eu des choses. Je ne veux pas dire qu'il y a des fautes que d'un côté, il y a eu des fautes des deux côtés. Ben, acceptons-les et puis parlons-en. Ouais, c'est notre démarche, surtout notre démarche. Parce que des deux côtés de la Méditerranée, on ne peut pas. C'est un mariage forcé, je dirais, entre la France et l'Algérie. Il y a rien, on ne peut pas. On ne sera plus ni vous, ni moi, ni les autres, nos enfants, nos petits-enfants. Il y aura toujours cette relation entre l'Algérie et la France. Pourquoi pas perdre de bases solides pour essayer? Bon, la mare d'El Paz, la mer Méditerranée, c'est une mer de paix. Je dis, bon, il y a plein de choses. Il y a des richesses d'un côté et de l'autre. Il y a un formidable élan de jeunesse, de solidarité qui existe. Et pourquoi pas? Je veux dire, nous sommes aujourd'hui où là, il y a des problèmes économiques. Etc. Pourquoi ne pas aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau entre ces deux rives de la Méditerranée?
Personnellement, moi, je l'ai écrit. Je dis, quand j'ai commencé à faire des recherches chez mon père, j'étais partie avec un petit soldat blanc. Et je suis revenue avec des centaines de soldats de toutes les couleurs. C'est-à-dire que je suis partie avec un petit fil et je suis arrivée avec une grosse pelote. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on fait... par exemple, mon père est l'objet de mes recherches, de mes livres, de tout ça, mais je ne peux pas dire que je parle que de mon père, loin de là. C'est une petite histoire dans un cadre de grande histoire.
Ce qui m'a permis de découvrir, parce que, bon, si vous voulez, j'ai grandi dans un sentiment qui était l'indépendance de l'Algérie, les maquisards. J'ai jamais su ce qu'ont pu souffrir les soldats français. Non, je veux dire, j'ai jamais... Bon, je pensais... quand on a écrit ce livre, moi et Hélène, je veux dire, bon, quand on est passé dans un certain nombre de radios, j'ai dialogué avec des militaires. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de poignant qui vous tient. C'est-à-dire, quand ils vous parlent de ce qu'ils ont subi, de ce qu'ils ont souffert, il y a plein de choses, je veux dire, que d'un côté comme de l'autre. Mais bon, je n'ai jamais ressenti ce genre de choses. Je l'ai ressenti avec eux, car qu'ils avaient la même trouille que mon père. Ils avaient la même trouille que mon père, oui. Sauf que peut-être eux, ils mangeaient à leur faim, je veux dire, dans les casernes, les boîtes de rations, etc. Pas souvent, mais chez nous, moi, les maquisards, c'était qu'ils mangeaient de l'herbe. Ils n'avaient pas toujours la galette ou la boîte de ration ou la viande. Alors, souvent, on donne une image de ces maquisards qui vivaient chichement. Absolument pas du tout. Ça, je peux vous le dire que, quelquefois, pendant 2-3 jours, il n'y a pas de galette. Il n'y en a pas. Non, mais certains disaient, ouais, ils vivent bien, ils mangent bien. C'est pas... Non, moi, je l'ai vu, je l'ai observé. Et que moi, je me rappellerai toujours, pendant 4 jours, il y avait les avions qui frappaient dans un douar qui était du côté de Kerba, qui s'appelait Djebel Louroud. Et vraiment, il y avait un commando qui s'appelait le commando Ali Khouja qui venait de passer. Et pendant 4 jours, les T6, on appelait ça le Bigota, ça descendait avec un bruit assourdissant. Ben, pendant 4 jours, ils ne mangeaient pas. Ils ne pouvaient pas bouger, ils étaient coincés. Dans le douar, ils attendaient juste un petit peu pour pouvoir se sauver. Moi, je me rappellerai qu'il avait un bout de galette séchée qui nous l'a donné à nous, les enfants qui étaient là, parce qu'on avait faim. On avait faim. Alors, il y avait une petite herbe qu'on allait chercher parce que bon, il fallait avoir quelque chose. Mais sortir dehors pour aller chercher de l'eau dans l'ouette, c'était être voué à la mort.
Oui, et puis pour aller dans ton sens aussi, ce que je veux dire, moi aussi, j'ai découvert en tout cas, ce qui est sûr, c'est que souvent, les hommes politiques français avaient du mépris pour ce qu'ils appelaient les terroristes, les félagas, les félouzes, ce que vous voulez, et les mépriser en tant qu'humains et en tant que soldats. Moi, je peux vous dire que dans l'armée française, encore aujourd'hui, j'entends que c'était du côté de la LN, des soldats extrêmement courageux, qui au début avaient peu d'armes, peu de matériel pour se battre, et qui étaient d'un courage. Enfin, l'armée française savait très bien qu'elle avait en face d'elle des vrais soldats. Et je pense que elle a oublié ce qu'elle avait été pendant la résistance, c'est-à-dire des soldats aussi peu et mal armés, mais qui avaient une passion, un courage, une envie d'en découdre et de se battre pour sa liberté. Et quand on se bat pour sa liberté, même avec le minimum, on peut faire des miracles. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que les soldats français que j'ai rencontrés après, qui sont battus dans le rang de mon père, je n'ai jamais eu le moindre mot négatif par rapport au courage de leurs adversaires de l'époque. Voilà, ça c'est important de le dire. Il y avait des hommes courageux, des hommes qui avaient de l'éthique aussi, et des hommes patriotes des deux côtés. Et c'est là que vraiment je redis, j'ai un peu comme une obsédée, mais c'est quel dommage et quel gâchis.
Bah, chacun, bon, il y a eu un dialogue entre moi et Hélène. D'ailleurs, bon, elle a ramené son petit dictaphone, bon, on a parlé, on a dit des choses, elle a dit des choses, etc. Bon, bah, après, il fallait mettre en page. Elle chez elle à Agen, moi à Pessac, et puis bon, à travers nos ordinateurs, et bien voilà, on a travaillé, on a corrigé, etc. Moi, je suis parti en Algérie aussi, avec un petit peu le synopsis de... voir avec des amis, surtout des amis de mon papa, qui étaient ravis. Certains avaient la larme à l'œil pour dire bah, « je crois que ton père serait fier, donc voilà, tu l'as fait, c'est très bien ». Puis on a des échos d'Algérie aussi, hein, je crois qu'avec la ville où je suis né, un site qui
il y a le parle. Site de la ville de 80 000 habitants, Bousmaïl, qui s'appelait Castiglione à l'époque française. Ils vont faire une communication sur ce livre et mettre la photo du père de Mohamed. Donc ça, c'est important pour nous. Il y a également les éditions Casbah qui sont en train de réfléchir pour éventuellement le publier en Algérie. Mais ça, c'est pas encore sûr. Hein, donc on n'en parle pas. Vraiment, mais c'est vrai que ce livre... Ce que je sais, c'est qu'Al-Watan va faire un article sur ce livre. Donc c'est déjà bien. C'est déjà une petite reconnaissance. Nous, si vous voulez, ce livre, ça n'a aucun intérêt financier. On s'en fiche complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous rapproche. Et que pour les générations qui viennent, pour nos enfants, petits-enfants, les vôtres, les nôtres, on arrête de parler de cette guerre comme si c'était un brûlot. Ça a été un brûlot. Essayons de transformer justement ce gâchis en quelque chose de positif. Et essayons de... D'ailleurs, Mohamed le dit, on est comme un couple qui a vécu ensemble et qui s'est séparé. Et bon, au début, on se déchire parce que, bon, il y a des jalousies, des intérêts communs, etc. Voilà. Et puis après, il y a le temps de la réconciliation, on vieillit, hein, et puis on mûrit, et puis on se dit que bon, c'était un passage et que la vie continue, et qu'il vaut mieux transformer ça en une belle leçon de paix, quoi. C'est en fait ce qu'on a voulu, à notre petite échelle, tous les deux, essayer de faire. Et c'est vrai que c'est vraiment pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile. Ce qu'on voulait surtout, c'est que ce livre se lise facilement, que ce soit pas un livre... compliqué, etc. C'est l'histoire de deux hommes dans la même guerre, et de leurs enfants qui essaient d'en parler avec des termes simples, modestement, et en essayant, derrière ces phrases, ces mots, de démontrer que entre l'Algérie et la France, il y a encore tout à refaire, tout à faire, et que c'est que le début. Et que le passé, c'est le passé. Et on va pas. Il faut arrêter de. Pas d'en parler. Il ne faut pas oublier, mais il faut pardonner d'un côté comme de l'autre, et se dire qu'on va construire là-dessus maintenant.
Voilà. Il faut avancer, je dis toujours. Il faut avancer. Il faut grandir. Il faut avancer. Pas oublier que si on voit la communauté algérienne ou franco-algérienne en France, elle se situe à peu près à 2 millions, 2 500 000 personnes, entre les parents, les enfants, puis les grands-parents. Rajouter toujours, chaque année, je veux dire, à un moment donné, à une date bien précise, rouvrir ces blessures qui... Nous, on voulait que ces blessures, elles se referment, qu'on établisse quelque chose de nouveau. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a combien ? Les anciens maquisards, dans les 10 années qui vont venir, il n'y en aura plus. C'est comme ici en France, les poilus ou ceux qui ont fait la guerre de 39-45. Donc on n'en parlera plus. Qui va se charger d'en reparler après ? Mais d'une manière différente, d'une manière beaucoup fleurie. En Algérie, aujourd'hui, c'est 80% n'ont pas connu ce problème-là. Et quand on en parle avec eux, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. Je veux dire, en France aussi, bon, chez les jeunes, quand vous parlez du 11 novembre ou du 8 mai 45, bon, pour certains, ouais, c'est quoi ça ? Quel reste, que ce soit des souvenirs qui... Mais il faut, moi, je dis toujours, il faudra qu'en avance, il faudra établir d'autres choses. Pas uniquement par un nous, mais on est pour les générations futures qui vont venir, qui vont essayer au moins de construire quelque chose de nouveau dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. un moment, des guerres, des crises économiques, il y a plein de choses qui se passent. Je veux dire, bon, il faudra qu'on y arrive parce que des deux côtés de la Méditerranée, il y a des choses qui évoluent dans un sens où chacun va trouver, je veux dire, sa part. Sa part de bonheur, sa part de sentiments, de plein de choses.
Alors moi, je vais m'autoriser à vous lire deux petits passages du livre. Vous savez, comme la guerre d'Algérie n'était pas reconnue comme une guerre, donc les médecins, quand un soldat mourait, même un soldat d'active, il s'était considéré comme un civil, donc c'était une mort comme si c'était un civil. Donc c'était, il fallait faire. Je vous explique dans son ouvrage Chirurgien du contingent Suez-Algérie, mai 56 octobre 58, le docteur Zwang, appelé à l'hôpital de Tlemcen, a écrit deux points. Je le cite. Comme nous ne sommes pas en guerre en Algérie, chaque décès doit donner lieu à un permis d'inhumer, avec un diagnostic établi et signé par un médecin. Je remplis les certificats, entre guillemets, plaies multiples par balle, pendant que le sous-lieutenant d'administration remplit son office. Pour chaque corps, il tire le contenu des poches et des portefeuilles. Dans une grande enveloppe portant le nom du soldat, il met les pièces d'identité, l'argent et les petits objets personnels. Les lettres et les photographies sont rangées à part. Ensuite, il y a le corps qui arrive en France. Ça n'a pas toujours été bien fait. Le rapatriement du corps des soldats français n'a pas toujours été glorieux. Certains députés s'en étaient émus, comme l'ancienne résistante et déportée Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui parla ainsi de ces drames à l'Assemblée nationale. À chaque coup de sonnette, les familles continueront de tressaillir, craignant toujours que ce ne soit le télégramme officiel leur annonçant sèchement que le fils qu'elles attendent, qui est pour elles plus que leur vie, ne reviendra plus. Beaucoup ont reçu ce télégramme et il leur a fallu attendre de longs mois avant de recevoir un avis les autorisant, comme cela s'est passé en juillet dernier, à aller à la gare de la Chapelle chercher, parmi les caisses et les ballots, un cercueil. Souvent, à l'Assemblée nationale, les députés interpellèrent le gouvernement sur le manque d'humanité qui caractérisait l'administration française face à la mort de ses soldats, comme le cas de cette famille qui avait reçu les effets personnels du fils en port dû, 1219 francs, puis une feuille d'impôt avec les salaires de ce fils disparu.